9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, et on est reparti pour une nouvelle année santé. Ravi de vous retrouver, première émission en direct de l'année avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia, ravi de vous retrouver.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux, tout à fait.
Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année? Un 21 sur 20 à votre prochain mémoire.
La sérénité, ça sera bien, ça serait bien déjà.
Ah, si vous voulez, on peut en parler.
Voilà.
On peut pas en parler jusqu'à 10 heures.
On a quand même vécu une année 2020 loin d'être sereine, à dire vrai. Donc, voilà.
Je crois qu'on a besoin encore de sérénité. Et vous avez été sur le terrain. Hein. On peut dire que vous, on parle
beaucoup. Ah oui, mais c'est dans ce sens que je parle de sérénité,
des,
en fait.
Des professionnels de santé, puisque vous êtes sage-femme, et vous êtes sur le terrain. Vous vous déplacez dans les quartiers, un peu partout en France, là où on vous demande.
Enfin, oui, partout en France, dans le 95, exclusivement.
Avec des anecdotes.
Avec des anecdotes, tout à fait, oui. La plus récente date d'hier, effectivement. Ouais. Voilà.
Bon, Patrick Soulaï est avec nous. Hola, Patrick.
Hola, Philippe. Hola, tout le monde.
Meilleurs vœux à vous, Patrick.
Merci, meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux aussi à Nadia et à vous, Philippe.
Merci.
Et à madame votre mère.
Oui. Attention, elle m'a dit, Patrick, tu ne passes moins, faut que j'entends pas assez mon nom. J'ai dit, j'en parlerai à Philippe.
Donc voilà, madame Soulaï, bonne année à vous. Alors, il faut expliquer aux gens pourquoi vous appelez Nadia Patrick Mister Pepita, parce qu'on m'a demandé pourquoi vous l'appelez Monsieur Pepita.
Alors oui, parce que il a des petites pépites en réserve qui nous délivre sur son site et sur son Insta, voilà, qui vous permettent de réfléchir, de réflexionner sur vous-même et d'évoluer. Voilà, donc il a des pépites qu'il faut aller dénicher.
D'ailleurs, ce soir, c'est le live sur Insta, 21h. Donc, rendez-vous si vous voulez vous inscrire. Test de personnalité, Patrick.
Yes, analyse de personnalité. Vous passez en live, on discute. Et puis après, je vous dis ce qu'il en ressort. Voilà.
Alors, on parle du couple aujourd'hui. Quel est le modèle de couple qui réussit le mieux? D'ailleurs, vous allez peut-être, vous qui nous écoutez ce matin, mettre un nom sur le modèle de couple que vous avez choisi ou pas, tout en sachant quand même, Nadia, que le couple, il y a autant de modèles de couple que de couples. Hein.
Exactement. En fait, là, pour notre émission, j'ai choisi en fait une étude sociologique qui a été faite et de laquelle les chercheurs ont sorti 5 types de couples. Mais en réalité, il y a autant de types de couples que de couples existants sur Terre. Donc, voilà, prenez toujours...
Chaque couple est unique, hein, même si on c'est modélisé aujourd'hui.
Chaque couple est unique, et même plus encore, chaque couple que vous constituez est unique. C'est-à-dire qu'une même personne peut constituer des couples différents. Dans son même couple... Et si elle se remet avec une autre personne, elle peut constituer aussi d'autres couples différents.
Oui, si elle se remarie en fait.
Exactement.
Ouais. Donc il y aura un autre couple.
Exactement.
Une autre interaction finalement.
Exactement. Donc voilà, ne prenez pas en fait ce qui vous est dit. D'ailleurs, c'est le même principe et je pense que Patrick nous le dira. C'est le même principe pour tout ce qui est profilage en fait. Hein. Ne vous accolez pas des étiquettes. Hein. Le but c'est d'avoir un guide pour vous repérer et vous dire peut-être que vous avez de vous dans chaque typologie qu'on va citer.
Et c'est pour ça que souvent vous pouvez vous retrouver d'ailleurs un peu partout. Mmh. On va confronter aujourd'hui la sociologie à la process.com et on verra en quoi notre personnalité de base peut induire et un choix de type de social de couple. Alors on part, Nadia, vous nous le disiez tout à l'heure, d'une enquête qui a été faite par un sociologue suisse qui s'appelle
Keller Hall.
Oui.
Donc c'est un professeur de sociologie en Suisse qui est internationalement connu hein, d'ailleurs. Il s'est associé avec deux autres sociologues et il a lancé en fait il s'est questionné sur le fonctionnement conjugal en partant justement de la constitution des conflits. Et il s'est demandé si il y avait des typologies, en fait, des types de couples qui généraient plus d'états conflictuels et qui allaient jusqu'à pousser les couples à se séparer. Donc de là, en fait, sur le terrain, donc il a constitué en fait son équipe et il a questionné donc 1500 couples, donc un peu plus de 1500 couples, donc 3000 personnes. partant de alors je crois que là c'est de 18 à 68 ans il me semble, et c'est une étude qui a été faite sur 2 ans, et donc dans les années 90, et ils ont rappelé à distance en 2004 avec une autre équipe constituée certains couples pour savoir justement où ils en étaient. Donc il m'a semblé intéressant effectivement de croiser le regard sociologique de cette étude-là, parce qu'elle est quand même elle fait foi dans le milieu notamment sexologique et sociologique, avec justement la Processcom que nous propose si bien Patrick.
À noter qu'on peut retrouver l'intégralité de l'étude dans un livre hein, qui s'appelle Mesures et démesures du couple. Hein, donc, si vous voulez plus de références sur cette étude. Mmh. Donc, eux, ils distinguent combien de modèles de couples différents, Nadia?
Alors, eux ils distinguent cinq types de couples. En réalité, ils avaient une typologie plus large, mais ils ont réduit en fait leur typologie pour que ce soit plus cohérent, parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait des éléments qui se retrouvaient un peu dans les différentes typologies de départ, et ils en ont dégagé donc cinq types de couples. Donc le couple bastion, le couple association, le couple compagnon, le couple parallèle et le couple cocon. Donc dont on parlera au cours de notre émission.
D'accord. Quel est le type de couple, si on le sait, qui est le plus répandu?
Alors le plus répandu, c'est le type association. C'est celui qui correspond en fait, on va dire, à la configuration contemporaine du couple. Mmh. C'est un couple où en fait la devise, c'est un peu chacun pour soi, mais c'est le chacun pour soi pour nous. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, le développement personnel et individuel est important, mais il est mis au service du nous. Donc, juste un rappel, hein, le couple, c'est donc une entité de deux personnes. Ces deux personnes-là, donc indépendamment, elles ont un travail, un parcours, une histoire, un vécu familial. Et quand elles sont ensemble, quand elles se mettent en couple, il y a donc, vous imaginez en fait, j'avais ramené un petit
un schéma.
Ouais, je le montrerai après.
Bon.
Donc, vous imaginez deux bulles, comme les anneaux des Jeux Olympiques. Hein, et voilà, ces deux bulles se croisant,
fusionnent.
Ils forment effectivement une entité au centre, et cette entité-là, c'est ce qui correspond en fait à ce qu'on met en commun ensemble, donc le fameux nous. Et dans le couple association, le nous est important, mais il ne passe pas en priorité. C'est-à-dire que pour que, dans le type association, le couple, les membres du couple se disent que pour être bien dans le nous, il faut qu'ils soient bien avec eux-mêmes. Donc c'est des personnes qui vont chacune avoir des carrières, des engagements, des occupations, pas forcément les mêmes, mais en tout cas elles ont besoin de se construire comme ça pour pouvoir apporter au couple.
C'est chacun sa vie, c'est ça?
C'est pas chacun sa vie, ça c'est le type parallèle, on verra après.
D'accord.
C'est chacun
sa vie.
C'est chacun
professionnel.
Voilà, chacun sa vie professionnelle, chacun sa vie intellectuelle, culturelle, artistique, tout ce que vous voulez.
Chacun ses amis perso. Chacun...
Non, ils ont des amis communs. Donc le couple a des amis communs, contrairement D'accord. au couple parallèle.
Ouais.
Mais ils peuvent avoir des amis effectivement de leur côté, pas forcément les partager, mais ils ont un socle commun.
D'accord. Chacun a ses chasses gardées, mais pas uniquement en fait.
Oui. Et si vous voulez, c'est un couple où il y a constamment négociation. C'est-à-dire que tous discutent. Alors c'est un couple où la répartition des tâches au sein du couple n'est pas genrée. Elle est pareille. Elle est discutée et ils se mettent d'accord sur qui va faire quoi, qui va chercher les enfants, qui va ranger la maison, qui va aller faire les courses. Voilà. Mais c'est en perpétuelle négociation. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le couple le plus, on va dire, c'est le type, pardon, le plus sociologiquement retrouvé sur le terrain. Il me semble
ça fait 30% hein,
ouais,
à peu
29,
près.
J'allais dire, ouais, c'est ouais, ça.
Ça fait presque 30% des couples.
C'est ça.
Voilà, donc mais largement devant les autres.
Et ce sont des couples qui sont largement devant les autres, et ce sont des couples jeunes. C'est plutôt la génération, c'est pas la génération de nos parents en fait.
C'est pas le couple tradit.
c'est pas le couple traditionnel qui est le couple bastion, on verra après effectivement. C'est un couple qui est plutôt jeune, catégorie socio-professionnelle, donc on va dire c'est la classe moyenne. Qu'on le retrouve dans ce type de couple-là.
Donc le couple tradit, c'est le couple bastion. À quoi ça correspond ce couple bastion? Enfin tradit, je mets entre guillemets bien sûr. Hein.
Oui oui. Alors le couple bastion, effectivement, c'est le couple dit traditionnel, c'est-à-dire celui qu'on retrouve en fait les siècles précédents. C'est un couple. Alors, qui est quand même assez fusionnel. Donc, dans ce couple-là, si vous voulez, les deux forment une seule entité. Donc, normalement, dans un couple équilibré, 1 plus 1 égale 3, il y a toi, moi et le nous qu'on forme. Dans ce couple-là, c'est 1 plus 1 égale 1. Et ils ont leur répartition qui est très genrée. C'est-à-dire, l'homme, en fait... Et à l'extérieur, c'est lui qui travaille, c'est lui qui pourvoit aux besoins du couple et de la famille. Et la femme est plutôt le ministère des Affaires intérieures, si on peut dire ça comme ça. Et elle s'occupe de l'intérieur. Et dans ce type de couple-là, sociologiquement, elle travaille pas, en règle générale. Ou si elle travaille, en tout cas, c'est dans un moment du parcours, peut-être par nécessité ou... Pour s'occuper, mais
si elle travaille pas, ça veut dire qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants. Ça
voilà,
veut dire,
en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les contingences domestiques,
c'est la femme. Voilà. Donc là, c'est genré, hein, pour le coup.
Ah oui, c'est très genré. C'est vraiment le couple qui traditionnel. Alors après, il n'y a pas de jugement de valeur à apporter. Hein. C'est un fonctionnement qui est choisi par certains couples, et donc ça leur convient très très bien comme ça. C'est un couple quand même qui n'est pas très porté sur l'extérieur. Ils sont plutôt en
vase clos.
En vase clos. Alors ça ne veut pas dire qu'ils connaissent pas de monde. Hein. Ils ont un cercle familial, des amis identifiés, mais c'est un couple qui a un fonctionnement très routinier. Il y a pas de voilà, on va pas changer, révolutionner le monde.
C'est la famille avant tout, c'est ça.
C'est le couple qui est plus porté sur le cocon familial. Donc, c'est un style qu'on a tendance à retrouver de moins en moins. Et sociologiquement, le couple qui dure le plus longtemps.
Bon, 16% aujourd'hui, donc c'est le quatrième modèle de couple actuellement dans les couples qu'on connaisse aujourd'hui. Hein.
Ouais. Oui, alors les sociologues, là, dans l'étude, ils disent que c'est le couple qui dure le plus longtemps. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le couple le plus heureux, attention. Quand je vous dis ça, c'est les résultats sociologiques, mais ça ne veut pas dire que pour autant, ils sont heureux dans ce couple-là. Ils sont heureux si tous les deux sont d'accord avec ce fonctionnement-là.
Quel est votre type de couple? À vous qui nous écoutez, on verra ça tout à l'heure puisqu'on parle du couple jusqu'à 10h pour commencer l'année sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle du couple ce matin et on parle surtout du type de couple que vous pouvez être. Alors, il y a 5 typologies de couple selon une enquête sociologique de Suisse qui a été menée. On rappelle le nom, Nadia.
Du professeur Keller Hall.
Voilà, et donc son équipe.
Et puis Lévy. Ouais, c'est les trois sociologues.
Et le livre s'appelle Mesures et démesures du couple. Patrick Soulaï est avec nous également, qui va regarder ça sous l'œil de la process communication. On a vu les deux premiers modèles de couple tels que détaillés dans l'enquête, qui en recense 5. Nadia, on va rappeler les deux premiers.
Donc, on a vu le couple bastion et le couple association.
Alors, le troisième type de couple.
Alors, le troisième type de couple, c'est le couple compagnon. Donc, qui représente, alors qui vient tout de suite après le couple association, à peu près 24-25%. Alors dans la devise de ce couple, c'est la communauté d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce type de couple-là, donc c'est un type aussi fusionnel, mais dans ce couple, tout est question d'équilibre. C'est-à-dire que en réalité, il n'y a pas de répartition genrée dans ce couple. C'est vraiment de façon très aléatoire. S'il y a quelque chose à faire au sein de la famille, au sein du couple, c'est fait par l'un ou l'autre. Ce sont des personnes généralement qui sont très engagées. On les retrouve vraiment dans des associations, dans des comités de quartier. Enfin, voilà, c'est des personnes qui ont généralement les mêmes valeurs et qu'on retrouve vraiment dans des engagements en fait assez profonds.
Alors, quand vous dites que c'est aléatoire, comment il se fait cet équilibre?
Alors, dans, si vous voulez, contrairement au type association, ils font passer le nous avant l'individualité. Donc, je donne un exemple concret. Monsieur a besoin pour son travail de faire une formation, par exemple, je sais pas, à l'étranger, et que du coup, Madame se retrouve seule avec les enfants, eh bien, du coup, ce qui va se passer, c'est que dans ce couple-là, ça va se faire de façon naturelle entre guillemets, parce que l'autre membre du couple, donc en l'occurrence la femme, sait que il y aura
chacun son tour.
Exactement. Il y aura en fait un turnover, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle aura besoin d'une formation ou de changer de travail ou quoi que ce soit, elle sait qu'elle pourra compter sur son compagnon, que
qui
lui gardera
tour, ouais,
les enfants, voilà, et voilà. Donc c'est vraiment un fonctionnement qui est dans l'équilibre.
Il y a une vraie confiance en fait.
C'est ça. Et c'est d'ailleurs le couple qui se sépare le moins. Maintenant, voilà, il faut que ça convienne. C'est toujours pareil, hein, dans toutes les typologies, il faut que ça convienne aux deux. Si un des deux n'est plus dans cette répartition équitable des tâches, voilà,
y a la balance est déséquilibrée. Oui,
voilà,
sûr.
Exactement. Parce que ce qu'on peut voir dans ce type de couple, c'est un glissement vers le type association. C'est-à-dire que un des deux finalement a besoin de revenir vers son individualité et du coup, voilà. Il y a des séparations dans ce couple aussi, hein. Et donc du coup, on revient sur un autre fonctionnement qui peut ne pas convenir à l'autre membre du couple. Ensuite, on a le couple parallèle. Le couple parallèle, alors sa devise c'est moins tu me colles, et mieux je me porte. Voilà. Ou alors ensemble, à défaut de mieux. Donc c'est un couple qui peut vivre ensemble. On a des cas où les couples font appartements séparés, mais très souvent ils vivent ensemble, mais vraiment de façon parallèle. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas le même réseau d'amis, ils partagent pas les mêmes passions. Voilà, ils n'ont pas les mêmes. Ils peuvent avoir un ou deux intérêts, mais c'est un couple vraiment qui fonctionne sur deux rails.
Mais c'est pas chacun chez soi quand même.
Non, ils peuvent être dans le même foyer, mais ils sont chacun chez soi dans leur tête. En fait.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire que c'est d'ailleurs l'un des couples qui se sépare facilement parce qu'il n'y a pas de. Si vous voulez, dans ce couple-là, la sexualité peut bien fonctionner, mais l'affectivité est très peu présente. Donc, s'il y a un des deux membres du couple qui est plus en recherche d'affection, eh bien là. Commence à y avoir anguille sous roche.
Mais quel est le moteur du couple? Pourquoi ils sont ensemble, ces deux-là?
Alors, on a des exemples, hein. Ce sont les couples de nobles et d'aristocrates, hein, qui sont ensemble tout simplement par intérêt, soit intérêt financier ou de biens ou de patrimoine ou autre, et ils peuvent vivre. C'est des couples qui peuvent durer ad vitam aeternam, hein. Après, on y retrouve quand même des vies parallèles dans ce type de couple-là. Donc, mais c'est un fonctionnement. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, donc chacun évolue dans sa sphère et ça leur convient très bien.
Et le dernier type, oui.
À ma grande surprise, l'année dernière, j'ai découvert que c'est un type de couple qui commence à apparaître dans la communauté musulmane. À ma grande surprise, je dis bien, parce qu'en fait, c'est un type de couple qui ne colle pas avec les valeurs qui sont plutôt retrouvées dans le contexte.
Ils sont ensemble par intérêt ?
Non, c'est. Pas oui et non. C'est-à-dire que vous avez, alors moi je vais parler du côté féminin, hein, des femmes par exemple qui ont déjà été mariées, qui ont des enfants et qui voudraient se remarier, mais elles ne veulent pas habiter avec leur nouveau conjoint. Et elles veulent vraiment faire appartement à part. Et puis elles avancent des arguments religieux, hein. Elles disent oui, mais au temps du prophète, ça existait bien. Quand il y a polygamie, il y a bien, voilà, il y a
séparation
bien
domicile
séparé. Ouais. Donc je dis ça par rapport à nos auditeurs et nos auditrices. Ne vous dites pas que c'est un truc dans un monde parallèle, c'est le cas de le dire, hein, parce que ça concerne aussi la communauté musulmane. Donc d'ailleurs les cinq types concernent la communauté musulmane.
Allez, le dernier type de couple donc en sociologie, Nadia.
Alors c'est le type cocon. Après c'est intéressant, on verra la sexualité de chaque type de rapidement dans l'échange.
On va vraiment les voir. Alors, Nadia, le couple, pourquoi vous regardez Patrick dans ces cas-là? Patrick n'a rien à voir avec ça. Nadia, donc le couple cocon.
Le couple cocon, alors, la devise du couple cocon, il est vraiment, c'est pas possible, il est perturbant. C'est seul contre tous. C'est seul contre tous. Alors, dans ce type de couple, sa devise, c'est vraiment qui se ressemble, s'assemble. C'est un couple, bah, il porte bien son nom, hein, qui est particulièrement fusionnel. Les deux membres se ressemblent beaucoup. Ils ont les mêmes goûts, les mêmes valeurs, les mêmes aspirations. Ils sont vraiment
Ils font tout ensemble.
Voilà. Alors, ouais. Contrairement au couple Bastion, ce qui fait la différence, parce que le couple Bastion est un peu comme ça aussi. La différence, c'est que dans ce couple-là, c'est pas, la répartition n'est pas genrée. On fait comme ça vient, on s'organise et on se dit pas que cette tâche là elle convient plus au mari et cette tâche et l'autre tâche plus à madame. Donc ils sont là-dessus dans une répartition équitable, mais c'est un couple quand même qui a peur de l'extérieur, c'est-à-dire que pour eux l'extérieur c'est un danger. Donc il y a leurs amis très très proches, la famille très très proche, mais tout le reste en fait ça peut être un danger. Donc c'est vraiment le couple, le cocooning qui peut rester très casanier, qui sort très peu, contrairement aux couples associations qui sont plutôt mondains, qui sortent, voilà, ils ont des amis un peu partout. Ce couple-là est plutôt en mode cocon, on se protège, et puis voilà, moins on connaît de monde et mieux c'est. Et au niveau socio-professionnel, ce sont des couples qui ne sont pas carriéristes, donc on les retrouve justement pas dans des postes élevés parce que c'est pas ce qui les intéresse.
Mais quelle est la durée de ce genre de couple? Parce qu'on a déjà fait des émissions sur la fusion et la défusion, Nadia. Est-ce que ce sont des couples qui sont amenés à s'inscrire dans la durée?
Alors, c'est justement ce qu'on notait, parce que je vous dis, la base de cette étude-là, c'était d'étudier la cause des conflits. Tous les couples-là peuvent durer, si vous voulez. Si tous les deux sont dans un même type
Mais un couple fusionnel, ça peut durer 10, 20, 25 ans, 30 ans?
Bah, si dans leur structure, dans leur fonctionnement, la fusion fait partie du vécu du couple, oui, ça peut durer toute une vie. Maintenant, si on a un des deux qui, dans son évolution, comme chez l'enfant, hein, quand l'enfant est dans sa phase du non et qui veut défusionner avec sa maman, si dans son développement personnel, un des deux membres du couple, veut évoluer vers quelque chose de plus indépendant ou en tout cas interdépendant, c'est là où ça commence à craquer au niveau du couple et le type ne correspond plus. Le type en question de couple devient une prison.
Alors Patrick Soulaï, vous êtes formateur en process com et professionnel du profilage. Déjà, quand vous voyez ces cinq types de couples qui sont sociologiques, est-ce qu'on pourrait choisir un type de couple en fonction de sa personnalité en process com?
Alors on peut pas choisir.
On choisit pas.
On choisit pas qui on est. On choisit pas nos fonctionnements, nos fonctionnements inconscients, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, moi j'ai écouté attentivement, et ce qui est intéressant, c'est que ce que moi je me suis dit, c'est qu'en fait tout ça est lié à la création de notre personnalité, donc à comment on perçoit le monde aussi, puisque j'ai entendu valeur, j'ai entendu fusion, j'ai entendu chacun fait sa vie, tout ça, ce sont des ce qu'on appelle des croyances scénariques, les croyances qu'on peut avoir dans la société. Et ces croyances qu'on peut avoir dans la société, elles ont une incidence sur nous. Et dans chaque type de personnalité a dans sa tête ses croyances et aussi a des injonctions, les injonctions parentales. Donc tout ça, on le met en place enfant. Et en fait, toute notre vie, on voit la vie comme ça. Donc on peut après être dans un type de couple. Ce que je dirais moi juste simplement quand j'entends ces typologies là, c'est que pour moi en fait on passe à travers tous ces types de couples. C'est qu'en fait c'est des chemins obligés pour atteindre l'équilibre dans un couple. Et ça, c'est pas lié à un type de personnalité, une base de personnalité. C'est vraiment lié à une avancée personnelle et dans le couple.
Donc, on peut pas choisir délibérément de se mettre dans un type de couple en fonction de sa personnalité.
Non, parce que je suis d'accord avec ce que dit Patrick, parce qu'à un moment donné, si ça colle pas avec son propre fonctionnement, c'est-à-dire que prenons le couple parallèle dont j'ai parlé tout à l'heure. Même si idéalement une personne se dit oui bon j'ai assez donné dans mon couple ou dans mes couples précédents, maintenant je vais aller dans un fonctionnement parallèle, ça me semble être un bon compromis. Voilà.
Je suis pas tout seul, mais je m'embarque pas dans une histoire qui m'encombre.
Bah en fait, si vous êtes une personne qui a besoin, si vous êtes une personne dans l'affectivité, dans le toucher, dans la présence et physique et émotionnelle à l'autre, à un moment donné, ça va pas vous correspondre. Parce que le type parallèle, c'est, on est vraiment, vous imaginez, deux rails parallèles, hein, qui se croisent jamais. Et donc, ça va être très compliqué pour cette personne-là. C'est-à-dire que même si idéalement, structurellement, elle aurait aimé fonctionner comme ça, dans son fort intérieur, dans ce qui l'habite, émotionnellement, affectivement et même sexuellement, ça ne collera pas.
Et vous, quel est votre type de couple? Peut-être que vous découvrez ce matin. On verra justement. Alors, on parlait des conflits tout à l'heure. C'est intéressant de savoir comment les gens règlent leurs conflits, puis surtout quelles sont les valeurs qui les animent. On parle du couple jusqu'à 10h, ce Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
De Patrick.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Quand c'est rouge, Nadia, ça veut dire qu'on est à l'antenne.
Oui,
on parle du couple ce matin. Quel type de couple êtes-vous avec Nadia Elbouga, qui est là, sage-femme et sexologue clinicienne. Et puis Patrick Soulaï, formateur en process.com. On est en train de dérouler une étude suisse d'un sociologue qui s'appelle Jean Keller-Hall, professeur à l'Université de Genève, qui a mis en évidence 5 types de couples après avoir réalisé une enquête sur plus de 1500 couples. Et c'est ça qu'on est en train de voir ce matin. Peut-être que même d'ailleurs vous vous retrouvez pas dans un type de couple. On parlait des conflits tout à l'heure, puisqu'ils sont partis de la façon dont ils géraient les conflits, ces couples, pour en faire des familles. Mais Patrick, en termes de personnalité, on n'a pas tous la même façon de réagir en cas de conflit.
Bah ouais, on n'a pas tous la même façon de réagir. Et ce qui est intéressant, c'est que le docteur Tybee Keller, lui aussi, ses études sont basées sur quand les gens stressent. Parce qu'en fait, lorsqu'on est en conflit ou lorsqu'on stresse, eh bien, on revient à des émotions archaïques, à ce qu'il y a au plus profond de nous. Et c'est là qu'on peut déterminer une personnalité. Et du coup, un couple aussi également. Donc, c'est pour ça que ça m'étonne pas que ça soit basé là-dessus. Donc, oui, on n'a pas du tout la même manière de rentrer en conflit. Parce qu'en fait, on va pas avoir les mêmes injonctions. Si, par exemple, je prends la personnalité en base empathique, lorsqu'on est en base empathique, eh bien, l'injonction parentale, c'est ne ressens pas la colère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se mettre en colère. Donc, on va souvent être dans le couple cocon. Voilà, on va faire attention. Et le couple cocon,
fusionnel, donc.
Exactement, couple cocon.
Très fusionnel.
Très fusionnel, parce que là, on va faire attention, à la
maison. On va enrober.
On va être plus comme ça. Et on peut avoir aussi, Nadia parlait, on peut avoir aussi l'injonction aussi du type rêveur qui vient, c'est ne fais pas. C'est-à-dire qu'on vraiment c'est rester en retrait, garder notre monde interne et faire en sorte que notre monde interne soit avec nous-mêmes et même avec la personne. Donc on a besoin d'une ou deux personnes.
C'est alors le rêveur, vous le mettez dans quel type de couple?
Bah lui, il pourrait être dans le concon aussi également. C'est-à-dire que
pas dans le parallèle.
Non. Il peut être dans le parallèle aussi, mais ça veut dire. Mais là, on est dans un autre mécanisme.
Comme ça, on lui fout la paix, comme ça.
Exactement. En fait, il peut être dans le. Si par exemple, il est avec sa partenaire ou son partenaire, et aussi il y a une base rêveur. Ils peuvent être dans un.
Ah oui, là ils sont tranquilles.
Ils peuvent être dans un concours.
Chacun dans sa bulle.
Chacun dans sa bulle. Mais par exemple, si il est avec la base rêveur et avec quelqu'un qui est en base travaillomane, ah oui, là ils vont être en parallèle, puisque tous les deux, ils vont être axés sur la tâche.
Alors, le rebelle, enfin, en tout cas, celui qui est en base rebelle, quel type de couple pour lui?
Le rebelle, ce que j'avais noté, moi, ce qui était très intéressant sur le rebelle, c'est que il pouvait être aussi avec, avec le couple parallèle. Avec le couple parallèle, c'est-à-dire que lui, à un moment donné, lorsque on est dans nos mécanismes, on est dans nos séquences de stress, eh ben, il va vouloir juste s'amuser. Voilà, il va avoir faire ses trucs, être dans son monde, et il va pouvoir faire une différence vraiment entre son couple et sa vie. D'ailleurs, ce qui est intéressant lorsqu'on est en base rebelle, c'est que on a plusieurs groupes d'amis et personne ne se connaît entre eux. Et on est la personne référente du couple. Donc c'est pour ça que le
c'est cloisonné.
C'est vraiment le type parallèle. Hein.
Ouais, c'est cloisonné. C'est vraiment ça.
Très cloisonné.
C'est-à-dire que par exemple, c'est des personnes qui vont vous dire non, mais je vais faire une fête, mais je peux pas inviter Martine avec Mohamed. Non, ils se connaissent pas, c'est pas le même monde. Moi, je peux, je m'entends bien avec eux, mais lui, c'est parce que je vais aller au foot, et elle, c'est parce que je travaille avec elle à la pharmacie. Vraiment, ces deux mondes, vraiment, ils font vraiment la distinction.
Le promoteur, Patrick.
Alors le promoteur, alors lui, moi, où est-ce que je l'ai mis ? J'ai mis dans l'associatif, le promoteur. J'ai mis dans l'associatif parce qu'il y a un besoin d'excitation très fort. Besoin d'excitation, on peut pas rester dans le même dans les habitudes, tout ça. Non, il faut qu'il fasse plein de choses. Il faut qu'il fasse plein de choses. Il faut qu'il soit, en plus, l'extérieur est important. Donc, c'est aussi comprendre que, en fait, selon les types de personnalité, notre base de personnalité, on a ce qu'on appelle des environnements préférés. Mmh. C'est-à-dire des endroits dans lesquels on se sent vraiment bien. Et lorsqu'on est en base promoteur, on a un déclencheur externe. C'est-à-dire que, on est attiré par ce qu'on voit. Lorsqu'on est en base promoteur, on peut se dire bon, bah ce matin, je vais écrire un livre. Et puis après, il y a un pote qui nous appelle. Ah bah je vais aller faire du sport avec lui. Parce qu'en fait, c'est l'extérieur qui va qui va déclencher notre action et on adore ça. Donc voilà.
La surprise. Le persévérant, vous le mettez dans quel type de couple ?
Je le mettrais dans le bastion parce qu'il y a beaucoup de valeurs, des valeurs communes, la famille, ce que tu disais Nadia, une vision un peu à l'ancienne de la famille, une vision basée sur les valeurs et basée sur l'entente et la négociation, c'est ça?
C'est ça, ouais. Tout à fait.
Donc, enfin, quand on dit à l'ancienne...
Alors non, il n'y a pas de négociation dans le bastion.
Alors c'est quoi alors?
Dans le bastion, il n'y a pas de négociation, c'est très défini dès le départ. On sait que... alors évidemment, on est dans des couples hétéro-sexuels.
Oui, oui,
hein,
oui,
voilà, et hétéronormés. Donc là, c'est le rôle de la femme, c'est telle chose, c'est l'intérieur. Voilà, et le rôle de monsieur, c'est l'extérieur. Et ça va comme ça. D'ailleurs, même ça se retrouve même dans leur sexualité. Hein, c'est des couples, ils ne peuvent pas envisager autre chose que le mariage. Et la sexualité est une sexualité reproductive, voilà, c'est vraiment un couple traditionnel.
Eh bien, c'est exactement ça. Donc, lorsqu'on a une base persévérant, on a ce qu'on appelle un besoin psychologique et les opinions et les valeurs. Oui. Donc après, on peut avoir des valeurs différentes, mais lorsqu'on se retrouve dans ces valeurs-là, eh bien, on va avoir tendance à être dans ce type de couple.
Alors, le dernier profil, là, on parle de process communication, monsieur Patrick, c'est le travail human. Il va dans quel type de couple?
Alors,
le travail human?
Le travail human, il peut être dans le parallèle, c'est-à-dire, basé sur la tâche, sur sa vie, et faire une vraie différence entre ce qu'il a à faire. Et en fait, le problème, lorsqu'on a une base travail human, ce qui se passe, c'est qu'on est dans notre environnement préféré, c'est la priorité à ce qu'on doit faire et les relations après. Donc on va avoir une tendance vraiment à avoir du mal à exprimer les sentiments, tout ça. C'est compliqué, c'est prise de tête. Pourquoi en fait? Souvent, lorsque j'accompagne des gens qui ont une base travail human, ils vont me dire non mais attends Patrick, je travaille 7 jours sur 7, je fais 75 heures par semaine. C'est pour qui? Bah c'est pour elle. Elle voit très bien que.
Oui. Qu'elle veut de plus?
Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Donc on est vraiment axé sur la tâche à faire et après les relations.
Alors, on vous parlait tout à l'heure de sexualité, Nadia. Est-ce que chaque style de couple a un mode de sexualité qui lui est propre?
Oui, tout à fait. Alors, comme je disais, le bastion, hein, c'est mariage, sexualité plutôt reproductive. Voilà, mais c'est comme ça.
Pourquoi ça fait rire, Patrick?
Parce que ça me fait rire parce qu'on a des sexualités reproductives.
Oui,
je trouve ça drôle.
C'est-à-dire que s'ils se mettent en couple, c'est parce qu'ils ont cet objectif. C'est ça que je veux dire. D'accord, voilà, parce qu'on peut tous avoir une sexualité reproductive, mais c'est pas forcément l'objectif. Contrairement, par exemple, aux couples associations, ouais, qui eux sont ont une sexualité créative. Okay. Ils sont voilà, ils sont plutôt dans quelque chose de d'érotique, de sensuel. C'est on retrouve ça, d'accord, plutôt dans ce type de couple là.
Mais on peut avoir une sexualité créative et reproductrice, non?
Oui, oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Okay. On a dit là, on dispatche, mais évidemment, c'est, on va dire, la représentation la oui, plus dominante qu'on retrouve dans ces couples-là. On va retourner la caméra, attention.
Parce qu'ils se moquent de nous.
Oui, oui, non,
ah non, 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 moi j'apprends, ah, j'apprends et je suis très attentif, Nadia. Alors,
le couple
fusionnel, les couples fusionnels, comment est-ce qu'ils fonctionnent sexuellement?
Le couple cocon, par exemple, c'est un couple qui va être très dans l'affection. Donc, ils ont une sexualité, ils sont très dans l'affection et peu importe en fait. C'est un couple qui va pas avoir une sexualité fréquente, contrairement au couple association, par exemple. Oui, mais ils vont être plutôt dans le cocooning. Quand je dis sexualité fréquente, je précise, ils vont pas avoir une sexualité génitale fréquente. Voilà, ils seront plus dans l'affectivité. Ça, c'est le couple cocon.
Si on vous écoute depuis des années, on sait que l'affectivité, c'est quand même une sexualité, Nadia.
Oui, bien sûr, hein, tout à fait. C'est pour ça que j'ai précisé sexualité génitale. D'accord, voilà. Ouais, bon. Ils vont être dans une sexualité affective. Tout à fait. C'est bien, vous m'avez bien écouté pendant.
J'ai lu un très très bon mémoire que vous avez fait sur justement l'apprentissage des sexualités, voilà, donc, au pluriel. Donc voilà, ça en fait aussi partie, mais ça fait partie des idées qu'il faut aujourd'hui imposer, vulgariser.
Exactement.
Parce que les gens réduisent, comme vous le dites souvent, la sexualité à la génitalité.
Exactement. Il faut arrêter de parler de la sexualité. Ça ne veut rien dire. Il y a des sexualités.
Bon, alors les parallèles, ils m'intéressent. Voilà, dites-moi les parallèles.
Alors, les parallèles, en fait, ils sont. C'est une sexualité quand même assez pauvre, hein, mine de rien. C'est une sexualité. Alors, c'est ce qu'on va peut-être retrouver dans des clubs échangistes, d'ailleurs. C'est des
Patrick, écoutez bien.
C'est une sexualité qui est voilà, qui est pauvre, c'est-à-dire qui n'est pas très érotique en fait. C'est plus une sexualité fonctionnelle. C'est voilà, j'ai une pulsion, je vais retrouver l'autre, mais basta. Il y a pas d'intensité émotionnelle, affective que l'on va retrouver justement dans le couple cocon.
Alors je vais vous poser une question, Nadia, qui a peut-être rien à voir avec le sujet, mais les gens qui sont ensemble que parce que ils s'aiment sexuellement, ils sont dans quelle catégorie?
On peut retrouver ces gens-là dans toutes les catégories.
D'accord. Il y a pas une forme de couple qui leur va bien.
Alors on les retrouve plus dans le couple parallèle. On va les retrouver plus dans le couple parallèle. Oui. Voilà, mais on peut
ce qu'on appelle entre guillemets les plans. Hein. Les plans, les gens qui sont ensemble parce qu'ils s'aiment physiquement.
Oui, parce qu'ils s'aiment sexuellement.
Oui, sexuellement.
Oui, voilà.
Alors enfin, on dit, il faut aller jusqu'au bout, on appelle ça les plans cul. Il a pas été jusqu'au
bout. J'ai vu la tête de Nadia, et là j'ai vu que c'était pas dans son référentiel. Donc,
non, c'est pas ça. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que, effectivement, on en connaît aussi dans la communauté musulmane. C'est des personnes qui sont en couple parce que, alors ils vont avoir un type
parce
de couple.
Parce que ça match.
Parce que ça match ou parce que les apparences, parce que le quand dira-t-on, il faut une structure visible, mais en réalité leur fonctionnement interne est complètement différent. Et si vous voulez, ce serait peut-être des personnes qu'on retrouverait dans un couple parallèle, mais ils vont vivre dans un couple bastion, par exemple, parce que ils vont garder une structure.
C'est les apparences. On sauve les apparences.
Voilà. Donc après, on entre dans d'autres configurations, dans d'autres débats. Et là, c'est intéressant justement de creuser, parce que vous allez avoir des types de couples qui vont se constituer. Vous avez beaucoup de couples qui se constituent en type bastion, mais qui sont fondamentalement pas dans ce type-là. Parce que la famille, parce que la culture, parce que la religion, parce que voilà, toutes ces données-là. Mmh. Et ils vont se mettre dans ce type-là, mais en fait, c'est pas le type qui leur convient. Mais, si vous voulez, sociologiquement, ils sont dans un type bastion.
Bon, est-ce que les deux membres d'un couple ont l'impression d'évoluer chacun dans le même type de couple ou pas? Ou il y en a qui peuvent avoir des impressions différentes?
Alors là, je laisserai la parole à Patrick, mais oui, effectivement. Hein. D'ailleurs, c'est là où commence la rupture. Mmh. Alors, pas forcément le divorce, mais la rupture dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne correspond plus.
On n'est plus dans le même type de couple, en tout cas.
On n'est plus en phase. Par exemple, on peut partir d'un couple compagnon, et puis finalement, se rendre compte qu'il y en a un des deux qui est plus dans un besoin cocon, ou l'autre dans un besoin parallèle. Donc, et je rejoins ce qu'a dit Patrick en introduction d'émission. Effectivement, il y a une évolution, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas figer, étiqueter les gens on peut très bien
c'est pas figé,
dans la même
ça, c'est
vie
important
avoir
de
différents
dire qu'effectivement qu'avec le temps on change et le couple change
tout
aussi.
À fait parce que avec l'âge avec le développement personnel.
Non, je voulais vous dire que c'est okay. La première de l'année, donc il faut rendre à l'heure.
Ah, d'accord,
si
okay,
vous voulez
d'accord.
Un petit mot de conclusion, vous êtes le bienvenu.
Alors moi, je dirais juste que ce qui est important de comprendre, c'est que dans la sexualité, c'est aussi c'est comment dire. Dans la sexualité, on déclare qui on est. En fait, c'est l'expression de notre scénario inconscient. Donc, dans la sexualité, en fait, vous ne pouvez pas mentir. À un moment donné, on va découvrir qui vous êtes. Soit vous allez à un moment... Et en fait, le problème, c'est lorsqu'il y a frustration. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut avoir un schisme dans le couple. C'est à partir de ce moment-là qu'on va se dire, bah, je ne te reconnais pas ou je ne te comprends pas. Parce que on ne se sera pas bien exprimé.
On aura l'occasion d'y revenir cette année. On n'a pas vu votre petit schéma, Nadia, là, que vous avez apporté.
Ah oui,
montrez-le rapidement à la caméra.
Le couple. Ça, c'est un couple parallèle.
Oui.
Ça, c'est un couple bastion. Mmh. Voilà. Couple association et compagnon sont plutôt là-dedans.
Cocon, vous le mettez comment l'un sur l'autre complètement.
Cocon, voilà. Ils sont vraiment fusionnels.
Très bien. Ouais. Bien. Alors, vous pourrez voir l'émission sur la chaîne YouTube si vous voulez voir le schéma, le très joli schéma que nous a apporté Nadia El Bouga ce matin. Réécoutez l'émission en podcast. Merci Nadia, merci Patrick d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.